Bonsoir, bonsoir, la courte échelle ce soir. Nous sommes très nombreux ce soir dans le studio et dans la courte échelle, c'est une émission où on parle des prisons, des gardes à vue et des centres de rétention et des hôpitaux et également. Radio Galère, c'est sur 88.4 et tous les dimanches, c'est la courte échelle et vous pouvez réagir en direct en appelant le 04 91 08 28 10. Donc ce soir, nous avons Louise.
Salut.
Salut. On a Syl.
Coucou.
Coucou. Il y a Yann.
Salut.
Il y a Amy.
Coucou.
Il y a Joël.
Salut.
Ronia.
Ah, vas-y.
Salut.
Charlie.
Coucou.
Bien sûr, moi et Vivi, la semi-liberté. Et il y a Greg.
Salut.
Bonsoir, Greg. C'est Greg qui a pu avoir un témoignage sur une garde à vue à Noailles, donc sur Marseille. Donc, il y a trois personnes qui ont témoigné. Et ce soir, on va vous faire écouter leur ressenti de cette garde à vue. Et on pourra réagir après, même en direct. Vous pouvez appeler et réagir également dans l'émission. Je vous rappelle le numéro, le 04 91 08 28 10.
Hyper pro dans la présentation.
Merci. Bravo. Je suis nouvelle. Il y a deux semaines que je suis là parce que j'ai demandé l'autorisation.
Déjà chez toi,
donc,
quoi.
C'est parfait. Et bien voilà. Bon, après, bien sûr, je vais retourner à la semi-liberté. Je rentrerai dormir. Au bercail, comme on dit, mais voilà quoi. Donc soir, Greg, on va te laisser présenter l'enregistrement et ton témoignage que tu as pu avoir.
Et juste pour écrire à la radio, c'est Radio Galère, la courte échelle, Friche de la Belle de Mai, 12 rue François Simon, 13003, Marseille.
Et pour nous écrire par mail, c'est la-courte-échelle@riseup.net. la-courte-échelle@riseup.net.
Et après, si vous voulez faire un témoignage, vous pouvez les faire passer à Sylvie Coquille, numéro d'écrou 205-906, semi-liberté, quartier semi-liberté. Voilà, juste pour déconner un tout petit peu, Mimi S, Pascal, si vous avez des informations, toutes les filles, si vous avez des témoignages à dire ou à déclarer, que ce soit anonyme ou pas, comme vous voulez, c'est votre choix. Radio Galère est là pour entendre les témoignages et vous écouter également. Donc, comme ce soir, on va écouter cette histoire de garde à vue qui s'était passée.
Juste avant de lancer l'enregistrement, il y avait une petite brève.
Ouais. Ouais. Une toute petite brève qu'on va faire maintenant. Il faut savoir que le directeur des services pénitentiaires d'Occitanie a déclaré. J'estime que nos conditions de détention dans nos maisons d'arrêt sont indignes et engagent la responsabilité de l'État parce qu'il parle de surpopulation carcérale.
C'est sûr.
Parce que en ce moment, partout en France, mais notamment en Occitanie, on atteint des stades de surpopulation carcérale très
importants.
Très importants. Et notamment, par exemple, 240% à Nîmes ou alors 230% à Carcassonne. Bon, après, ça fait longtemps qu'on le sait, et c'est pas parce que le directeur des services pénitentiaires d'Occitanie le déclare que c'est nouveau. Hein. Mais c'était un peu l'occasion de
le rappeler,
de réaborder un peu la question. Donc là, les chiffres que j'ai dit, 240% à Nîmes et 230% à Carcassonne, c'est assez impressionnant, ça fait vraiment énorme. C'est plus que deux fois le nombre qui est censé avoir. Mais en vrai, ça reste des maisons d'arrêt. Donc, par exemple, Carcassonne, c'est pas une énorme maison d'arrêt, il y a 64 places. Mais il faut vous dire que par exemple, à Seyss, où ils sont 1187 pour 580 places, c'est pareil, ça fait peut-être un moins gros chiffre en pourcentage, mais en termes d'intensité de personnes agglutinées dans un tout petit espace, c'est vraiment énorme. Donc voilà, ça c'est pour l'Occitanie. On n'a pas pris les chiffres de toutes les tôles de France. Et du coup, oui, petit rappel, comme je disais, c'est souvent dans les maisons d'arrêt qu'il y a de la surpopulation carcérale, parce que c'est là où il y a les personnes qui sont en préventive, et que dans les CD en général, les centrales, les chiffres sont beaucoup moins gros, et que souvent, là par exemple, c'est un article du Point qui se pointe à ça, et on sait pourquoi il le pointe. Il le pointe parce qu'il y a un intérêt global à visibiliser ça dans le but de prôner le fait qu'il faut construire des nouvelles tôles. Ouais. Alors qu'en fait, pour devenir la surpopulation carcérale, il y a une autre solution, libérer tout le monde. À commencer par tout le monde, mais à commencer quand même par les personnes qui sont en préventif, par exemple, ça résoudrait complètement le problème. Et voilà, donc.
Et ça résoudrait aussi les problèmes de mettre des gens en détention parce qu'ils ont eu un passé, parce que souvent c'est sur le passé qu'on rentre. Hein. Moi, comme je dis, on est des condamnés à vie. Donc, quand je dis condamné à vie, ça veut dire que dès qu'on a un contrôle de police, eh bien, ils ont juste à pianoter. Hein. Ils pianotent, ils voient qu'on a fait la prison. Donc, eh bien, on va en garde à vue. De garde à vue, eh bien, on retourne à case départ, prison, parce que peut-être on n'a pas compris. C'est arrivé récemment avec une qui est sortie de la semi-liberté il y a 3 mois. Et elle se retrouve de nouveau au quartier arrivant. Donc, on dirait que c'est presque des matons. Ils commencent à parier sur les détenus. Celle-là, elle va rentrer dans 6 mois. Celle-là, elle va rentrer dans 3 mois. Vous trouvez ça normal, ça ? Vous trouvez pas ? Il y a des petites affaires de permis de conduire, de stupéfiants. Alors que le stupéfiant, c'est 200 euros d'amende, point barre. Dès qu'ils ont pris quelqu'un avec une petite barrette, on dirait qu'ils ont attrapé 10 kilos. Donc, ils rentrent dans la maison d'arrêt. C'est un peu. Voilà. Donc, si tout ce problème-là il serait réglé, de les laisser soit sous contrôle judiciaire, ou soit par bracelet.
Ou soit rien du tout.
Rien du tout, ouais, mais bon, ils ne seraient pas contents. Après, ils diraient qu'ils ne seraient pas de travail. Mais en attendant, ils remplissent gratuitement les prisons. Ouais. Et donc, aujourd'hui, ils se plaignent que c'est surpeuplé. Et bien, les juges des applications des peines et les surveillants pénitentiaires ouvrent les portes. Comme ça, on sortira tous. Voilà, la solution, elle est là. C'est qui c'est qui a les clés ? C'est la pénitentiaire. Hein. Ouais. Voilà, quoi. Donc, comme eux, ils font les rapports pour savoir qui c'est qui va avoir un ménagement de peine ou autre, voilà. Greg, je vais te laisser parler de ton témoignage.
Moi, j'ai pas grand chose à dire. On va surtout écouter le témoignage. Juste pour donner un peu de contexte, c'est deux personnes qui se sont fait attraper et une autre qui s'est fait attraper. C'est deux affaires différentes, mais on était tous ensemble dans la pièce à raconter un peu les conditions de garde à vue au commissariat de Noailles, avec un peu les locaux, comment ça se passe, les différentes personnes qu'on rencontre. Et voilà. Et puis après, on peut en discuter un peu. Je pense que ça fait presque une demi-heure d'entretien. Et c'est parti.
Depuis le temps qu'on parle de garde à vue dans notre intro, qu'on dit que la commission sociale parle de garde à vue, ça y est,
enfin,
le jour est arrivé.
Enfin,
ça part.
Bonne écoute.
Allez, bonne écoute à tout le monde.
Alors, moi, je me suis fait choper à 12h15 avec d'autres personnes. Donc, le trajet a été assez mouvementé, mais j'ai pas vu grand-chose parce que 12h15, c'est la nuit et j'ai pris une droite pendant le trajet. Donc, mon masque, parce qu'on a choisi de se masquer, s'est décalé. Du coup, je voyais rien. Arrivé assez rapidement, c'était au commissariat de Noailles sur la Canebière. On est entré par l'entrée qui est du côté du boulevard Garibaldi. Donc pas l'entrée où ils accueillent les gens pour les demandes, etc. Donc on nous fait rentrer, on monte à un étage, au deuxième, et on se retrouve dans une pièce éclairée par une espèce de lumière blanche glauque limite hôpital, avec une quinzaine de condés, comme ça.
Il me semble que cette pièce est la pièce où ils prennent les premières dépositions. Peut-être il y avait 4 OPJ avec le banc sur le côté pour les inculpés.
On se retrouve attaché à des chaises, on est déjà menotté, mais en plus là on se retrouve attaché à des chaises, de manière un peu serrée, c'est assez chiant. Juste avant je me rembrouille avec le condé qui m'avait droité, il m'en remet une. À ce moment-là on s'est retrouvé avec d'autres personnes aussi.
Il y avait d'autres inculpés qui étaient par hasard là pour les mêmes faits que nous. Pendant une heure, on est resté dans cette salle parce qu'il n'y avait pas de, passe en bas et on attendait aussi qu'on nous fasse une notification de droit. Mais pendant une heure, on est resté dans cette salle pratiquement. Et à un moment de cette période, ils sont venus nous demander nom, prénom, date et lieu de naissance, auquel on a répondu. Ils nous ont demandé notre adresse. On a décidé de ne pas répondre tous ensemble. Peut-être une demi-heure après, il y a des OPG qui sont venus pour nous faire signer nos notifications de droit. Voilà, on n'a pas signé. Voilà.
Ouais, là, il y a encore une embrouille. Vous avez essayé un peu de mettre une mauvaise heure, etc. Du coup, on leur a fait remarquer, on s'est embrouillé avec eux. Ils essayaient de nous filmer tout le long. Donc, ce qu'on faisait, c'est qu'on baissait la tête à chaque fois. Ouais, du coup, c'était un peu une ambiance où ils étaient un peu... nous, on était un peu sur le qui-vive, eux aussi. Il y avait des gens qui revenaient, qui faisaient des allers-retours. Un keuf qui a essayé de parler avec nous, c'était un peu peine perdue.
Et après, ils finissent par nous descendre et on arrive à l'accueil des cellules.
Mmh. Alors là, c'est en sous-sol.
Du coup, on redescend 2-3 étages. On arrive au moins un, je crois, un truc comme ça. On se fait fouiller. Moi, j'ai le droit à une fouille presque totale. Enfin, on m'a dit d'enlever mon t-shirt, on m'a rebien fouillé les poches. Et, voilà. Et après, on m'a mis en cellule.
Ah, moi j'ai pas eu de fouille totale justement.
Juste en haut, on m'a fait enlever.
Moi on m'a pas fait enlever le haut et tout, j'avais planqué des trucs dans les chaussettes et rien pris. Ah oui, ils font retirer les lacets, ça, c'est la classique. Je pense c'est assez...
Ceinture.
Ouais, j'avais pas de ceinture, mais ouais, ils font ça. Ouais, c'est, ça c'était. C'est pas déroulé en l'étudiant. Juste.
Voilà. Sur les affaires qu'ils ont voulu garder, moi j'ai préféré garder mon manteau pour avoir un coussin.
Moi je me suis fait arrêter un autre jour, mais aussi vers minuit et demi, par la BAC. Ils m'ont aussi ramené directement au commissariat de Noailles. On était deux dans la caisse, plus les trois BAC-eux, je sais pas comment le quatrième est rentré. Ils nous mènent à Noailles, on fait le même parcours, on monte deux étages. On va pas dans la même salle. Je sais pas si c'est parce que c'est la BAC, mais ils voulaient pas se mettre avec les autres flics. Donc ils nous mettent dans la salle des archives et là ils nous menottent aux chaises. Voilà. On n'avait pas donné notre identité jusque-là. Ils nous demandent si on veut parler, on répond pas. Ils ne reposeront plus la question, ils prennent, ils font leur déposition et voilà. Ça dure, je sais pas, trois quarts d'heure, une heure, un truc comme ça. Ensuite, il y a un autre flic qui arrive pour nous dire qu'il n'y a pas de place à Noailles et qu'ils vont nous transférer à l'évêché pour la nuit. Et donc, à ce moment-là, on n'a toujours pas été fouillé. Ils nous transfèrent à l'évêché. Et c'est seulement du coup 10 heures plus tard qu'on nous retransfère à Noailles, quand il y aura à nouveau de la place. Du coup là on va directement dans les cellules. Je suis dans une cellule de 4. À l'évêché j'étais aussi dans une cellule de 4, mais j'étais tout seul dans la cellule. À Noailles on est plein. Donc ce coup-ci quand tu rentres par la porte de côté là, il y a une double porte en face. Une double porte à droite. La double porte à droite, c'est vers les salles des OPJ, vers toutes les salles dont on a parlé jusque-là. Et tout droit, c'est les cellules.
Nous, on était deux, mais je n'étais pas avec lui. Et vous aussi, vous étiez dans votre cellule.
Mmh. Tu nous as bien séparés. Mmh. Ouais, j'avais le... En fait, quand tu arrives, il y a un tableau, Véleda, où il y a le nombre de cellules et le nom des gens qui sont dedans. Donc, du coup, tu as deux par cellule en général et tu as une grande cellule. En fait, comment c'est organisé, c'est que tu as des couloirs. Nous, ça faisait une espèce de truc.
De l'eau centrale.
Le panoptique.
avec genre 4 cellules autour, 4 cellules à l'intérieur, mais pas autour. Et après, il y en avait encore, il y avait 2 cellules où on mettait les femmes sur la droite, et moi, j'étais 2 cellules à gauche qui étaient vers les bureaux du médecin.
C'est à la fois tout petit, mais quand même très labyrinthique. Moi, j'étais au milieu de l'îlot central. Enfin, je pense que c'est ça, mais même en se racontant, c'est difficile de repérer si on parle des mêmes lieux.
Et toujours à cet étage, direct collé à l'accueil, à la cellule pour les prélèvements. C'est okay. Carrément l'entrée à gauche, direct.
Ouais, c'est un labo, en fait.
C'est un labo.
Ouais. Un laborantin dedans, qui, bah, du coup, et dont le taf, c'est de faire le prélèvement ADN et les empreintes palmaires digitales. Ouais, les photos aussi, toute la signalétique, en fait. On était prolongé pour 48 heures. Enfin, pour faire au total 48 heures, on était prolongé de 24 heures. On est parti. Alors, c'était. On a fait la nuit, la journée d'après, et on est parti à 14 heures le surlendemain pour se faire déférer. Et on s'est fait prélever.
Attends, c'était le deuxième jour.
Ouais.
Moi, j'ai eu une première demande le premier jour, que je suis pas sorti de la cellule. Et après, dans la même journée, j'ai eu l'audition, enfin j'ai eu le médecin et l'avocat. Et après, juste après, j'ai eu l'audition. Franchement, la notification de garde à vue, il y a un mec qui est venu, il a noté nos noms sur un petit papier, il est parti, il nous a fait. Il a essayé de nous faire signer, mais on a rien signé, mais ouais, il y avait. Tout était demandé dedans. Du coup, avocat et médecin.
Moi, de mon côté, quand on n'avait pas donné nos prénoms, enfin nos identités, on a été placé en garde à vue sous X, ça s'appelait X1 et X2, et du coup on n'a pas été notifié de droit. On n'a pas eu de droit d'avocat ni de médecin pendant la première garde à vue. Donc on a aussi été prolongé sur 48 heures, et c'est à la prolongation qu'on a pu demander d'avoir accès à un médecin. Il a une salle avec un petit bureau qui est aussi moche que les autres, hein, mais c'est la sienne.
Il n'y en a qu'une en plus. Il n'y en a qu'une, je crois, juste à côté, c'est la salle de l'avocat. Celle juste à gauche, hein. Il y avait les deux.
Je l'aurais pas forcément situé juste à côté, mais maintenant que tu le dis. Justement, ça, c'est aussi un truc tellement labyrinthique, et il y a des trucs qui se ressemblent que tu te perds, en fait.
Médecin, moi, je vais demander du Doliprane pour un moins mal à la tête et moins mal au dos, mais t'es pas particulièrement agréable, hein. Pas plus que les flics. C'était histoire de faire un tour, hein, globalement. Histoire de pouvoir vous raconter comment c'était.
On restait assez froid, enfin. Pas très étonnant. De toute façon, même si le médecin avait été amical, c'est un médecin appelé par les flics, donc. Ça change pas grand chose. Mais oui, par contre, vraiment, c'est un vrai truc, le truc du faire un tour. En fait. On a eu la chance de pouvoir accéder aux toilettes assez souvent, parce qu'en fait les toilettes de cellules étaient dans un état absolument lamentable, ils étaient complètement bouchés, enfin c'était une horreur quoi.
Il n'y avait pas d'eau.
Il n'y avait pas d'eau, c'était complètement bouché par plein de trucs.
C'était assez rapide, mais quand on avait le temps de se faire un petit check pour ça aller.
Ça, c'est un truc qui est vraiment très réconfortant. Tu vois, juste quelqu'un qui fait même juste un signe du pouce, en fait, ça te met bien parce que tout le travail des keufs tout le long, c'est de t'isoler. Donc, de te mettre vraiment dans un truc où tu t'es le seul avec eux, et ils te font croire que tu as les cartes en main avec toi, mais en fait. Vraiment, il y a un truc au niveau de l'expérience, ou même si rationnellement tu le sais, que c'est un truc qui n'est pas vrai, que tu n'es pas seul en vrai. En fait, voir les gens, ça renforce un petit peu ce truc-là, quoi. Parce que c'est une expérience un petit peu, je sais pas, liminal, quoi. Genre, il y a un truc, tu as tout le temps de la lumière, ça paraît un peu irréel, quoi. Du coup, je pense que ça contribue à un truc où. T'es pas dans un état normal quand tu y es.
Ouais, moi, juste pour rebondir sur ce qu'il disait de croiser les collègues, moi j'avais bien le seum parce que j'étais juste en face des toilettes. Donc je faisais pas de trajet. Zéro. Et personne passait devant moi. Enfin, c'était situé de façon à ce que je voyais pas les gens qui rentraient dans les toilettes, mais j'avais genre 5 mètres à faire pour aller aux toilettes. Donc j'ai pas vu de collègues de tout le long, quoi.
Et moi, à l'inverse, j'étais dans la... dans une cellule qui était juste en face de l'accueil. Et du coup, je voyais tout le monde passer. On voit aussi les keufs qui vont chercher des fouilles dans... pour les auditions, pour mettre des coups de pression. Et voilà.
Ouais, puis t'as un peu d'infos, quoi, du coup.
Ouais, c'est pas mal d'infos, moi. Bon, moi, l'audition, elle était vers 15h. Du coup, on me ramène au deuxième étage, là où il y avait les premières salles. La salle d'audition, elle était sur la Canebière, presque en face du McDo. Du coup, je me dis que pour les rassemblements de soutien, en fait, rien que mettre une banderole en face, c'est visible. Et moi, je regardais par la fenêtre pour voir s'il y avait des gens qui tombaient. Je voyais que le McDo.
Au niveau même, tu vois le Chickenville un peu. Le Chickenville, si tu mets une banderole au niveau du Chickenville, les gens peuvent l'avoir depuis le...
Par rapport à l'audition, très rapidement, j'ai fait le choix de garder le silence. Du coup, j'ai redonné mon nom, prénom et ma petite identité sans donner mon adresse. Et à partir de là, j'ai rien à déclarer à toutes les questions. J'ai pas lâché à faire. Ça a duré, c'était hyper rapide. 10 minutes, au bout de 10 minutes, ils en avaient marre et m'ont fait redescendre. Sinon, ils m'ont montré le matos avec lequel on s'était fait arrêter. Pareil, j'ai rien à déclarer. Ils m'ont mis un petit coup de pression en me disant qu'ils allaient me faire revenir l'après-midi pour une autre audition, pour une confrontation avec les vidéos. Pareil, j'ai rien à déclarer. On savait dès notre entrée qu'il y avait des vidéos. Ça a changé. De toute façon, on sait que les vidéos, les trois quarts du temps, elles sont floues. Et même, on était presque sûr de ne pas être reconnaissable du coup. On n'a strictement rien dit. Et tant qu'on ne les a pas sous les yeux, et même sans avoir réfléchi avant, on n'aurait rien dit en garde à vue. C'est pas le lieu pour se défendre, du coup, on serait resté sur la même ligne. Et en fait, moi, j'écoute même pas les questions quand je suis en... J'ai relevé celle-là, mais en vrai, les trois quarts des questions, je les écoutais pas. Et... comme un perroquet, je répétais. J'ai rien à déclarer. Voilà, c'est tout. On se fait redescendre.
Bah, moi, pareil, enfin, genre deux OPJ dans le bureau, je remonte. Juste avant, j'ai eu l'entretien avec l'avocate. Et c'était une commis d'office qui a essayé en fait de me faire tirer les verres du nez avant les condés, donc en fait j'ai dû appliquer la même stratégie qu'avec les condés, c'est-à-dire j'ai rien à dire. Alors en mode en fait vous pouvez pas faire ça, ça se trouve il y a des preuves machin, en fait ça en réalité ça n'existe pas quoi, la preuve absolue. Par contre l'aveu c'est un autre bail et du coup bon. Donc je l'ai vu, donc ça a duré pas très longtemps. On est remonté, du coup là, bah, deuxième ou troisième étage cette fois.
Deuxième
pareil. Étage, ouais. Deuxième, et du coup, pareil, mêmes observations. Je voyais le ciel, ça c'était cool. Puis j'étais à peu près à la même heure aussi, donc c'était pas mal, 15 heures c'est bien. Et ouais, t'entends la rue, la fenêtre était ouverte, et c'est... quasi systématique en fait s'il pleut pas. Je trouve chacun peut trouver sa technique, mais je trouve qu'il y a un truc qui est pas mal là-dessus. C'est que bon, genre sa technique mais pas sa pratique, je trouve que rien à déclarer c'est différent. Genre c'est une pratique qui doit être diffuse. Mais entre guillemets, sa technique, c'est son rapport à soi avec ce truc-là. Et je trouve qu'il y a un truc, justement, de ne pas écouter les questions. Chez certaines personnes, ça aide beaucoup. D'autres personnes aiment bien entendre. Moi, je pense que ça peut faire gamberger inutilement. Genre, parce que des fois, ils lancent des trucs dans le vide, mais ils sont formés pour que ça ait l'air un petit peu accrocheur. Et puis, des fois, en fait, ils touchent un peu juste par hasard. Donc, c'est pas mal, je trouve, aussi, de ne pas écouter les questions. Et juste être en mode, j'ai rien à déclarer, machin. Puis bon, des fois ça fait de la distraction. Donc... et puis bon, les condés sont toujours un petit peu. S'ils ont la foi, ils font leur petit jeu d'acteur aussi. Mais... comment ça, tu déclares rien? Alors qu'ils savent absolument rien du dossier ou quoi que ce soit, mais. Bon, ils ont très peu de données à ce moment-là. Mais bon, ils vont essayer quoi. Et par ailleurs, pour rebondir sur les vidéos, Il y a un autre truc où même des fois des vidéos, même en plein jour, très visibles, très reconnaissables. Bon, en fait, on ne sait pas si la vidéo elle a été prise de manière à pouvoir être exploitable au tribunal, en fait. Donc, dans le doute, toujours un déclarant. Ça me paraît une bonne option.
Moi, du coup, mon audition, c'était pareil, c'était dans l'après-midi. Hein. Moi, je pense que ça se passe l'après-midi. Pareil, c'était cool de voir le ciel, c'était cool d'entendre du bruit. C'est le moment un peu cool de la Garda, où ça change un peu de 48 heures à vraiment rien foutre. Moi, c'était marrant parce que c'est le moment où j'ai découvert mon chef d'inculpation. Et il avait rien à voir avec ce que j'avais fait, du coup, j'étais bien marré. Bah, c'était un moment où c'était gagné quoi. Il n'y avait plus rien, je sais que je serais pas déféré, ils étaient complètement à côté de la plaque. Après, ils ont essayé de me mettre la pression plutôt en me faisant culpabiliser, responsabiliser. Ils pensaient que j'étais un peu le chef de la team et que du coup j'entraînais le collègue. Ouais, moi, ils ont pas mal appuyé là-dessus. Comme juste avant, ils venaient de dire de la grosse de mer, c'était quand même. Ça allait. Voilà, j'avais pas d'avocat, mais ça a duré 10 minutes, un truc comme ça. J'ai rien déclaré, même stratégie. Et voilà. Par contre, le collègue, lui, il s'est pris un double coup de presse parce que, comme on n'avait pas donné nos noms tout de suite, on a fait le choix de les donner pendant l'audition. Notre petite identité, c'est la seule chose qu'on a dite pendant l'audition. La petite identité, nom, prénom.
Date et lieu de naissance.
Date et lieu de naissance. Voilà. Et lui, il y a une autre OPJ qui est venue pour lui mettre un coup de pression dans les couloirs. En prenant ma part, en lui disant qu'il savait qu'il mentait, qu'il était dans la merde s'il continuait, qu'il avait intérêt à rectifier le coup, machin. Bon, pareil, c'était pas les bons chefs d'inculpation, etc. Bon, voilà.
Pour ma part, je crois que j'ai dû dormir 90% du temps. Des fois, dès que j'entendais du bruit, j'écoutais un peu ce qui se passait, mais sinon, je faisais que dormir, ou sinon, je parlais avec mon collègue de cellule. J'en ai eu deux pendant tout du long de la garde à vue, et ouais, c'était cool. On a discuté un peu de tout, un peu de rien, on redormait, on discutait, on mangeait un peu. La bouffe était dégueulasse. Voilà. Sinon, plusieurs allers-retours aux toilettes pour faire des balades. Presque toutes les heures, une heure et demie, je demande à aller aux toilettes tout le temps. Juste pour sortir.
Ben, même stratégie pour les toilettes, genre tout le temps essayer de faire son tour. Au début, je dormais pas forcément, puis après, au bout d'un moment, c'est venu, j'y arrivais. Parce qu'il faut, faut se dire, il fait ultra chaud. Mais à un niveau,
c'était pendant l'hiver, il y avait le chauffage. Mais ouais, il faisait hyper chaud quand même.
Ah ouais, je pense qu'en été, c'est un délire aussi. Et du coup, bah, pareil, pas mal parlé avec le co-détenu. T'es en mode. Ça raconte un peu sa life, quoi. Alors, tu passes le temps, il y a des blagues partout, c'est dégueulasse. Ouais, c'est. Voilà quoi. Du coup. Voilà, un des trucs où tu passes le temps, c'est que tu regardes des fois. Moi, je pensais au début pour ça que j'ai pas forcément réussi à dormir. Genre, j'étais en mode. Dès que je m'endormais, je voyais un truc qui bougeait en passant. Donc, je me disais, ah, vas-y, j'essaie de les virer et tout. Parce que vaut mieux éviter de les écraser. Sinon, tu vas en ramener plein d'autres. Rapidement. Donc, tu les vires juste. Je sais pas. Ouais, sur l'attente, il y avait un truc à un moment, genre, comme il y avait justement des cafards et tout. Nous, on essayait de faire assez rapidement d'avoir nos plateaux sortis. Tu reçois par une trappe et tu les sors par une trappe et quelqu'un qui récupère et qui les vire. Et en fait, bah, comme on laissait une bonne partie de la bouffe dedans, vu que c'était immangeable, ça avait littéralement pas de goût. Alors, nous, on était en mode, on essayait de presser un peu pour qu'ils nous sortent nos trucs. Et à un moment, ils le faisaient pas, donc on a genre jeté dans le couloir par la trappe. Donc, ils apprécient pas trop, mais bon. Genre, t'as même pas un plateau, quoi. T'as juste le plan en plastique qui est micro-ondable.
Avec un opercule en plastique, là, qu'on lève. T'as un côté le riz, globalement, on a tous eu la même chose, hein. D'un côté le riz, de l'autre.
Poulet basket.
Le basket.
Poulet provençal.
Blanquette de veau, c'est le pire.
Moi, je vous étais déjà fiché, qu'ils ont réussi à me retrouver dans leur fichier. J'ai pas eu de réquisition comme un poteau. Ils m'ont laissé tranquille. J'ai pas lâché mes empreintes, j'ai pas relâché mon ADN, je suis pas sorti de la cellule. Pas de coup de force et pas de nouveau délit. J'ai rien eu de plus.
Moi, je les ai lâchés pour le coup. Je les ai cédés, mais enfin, c'est pas une pratique qu'il faut reproduire. Clairement. Voilà. Après, on a peut-être une possibilité de faire effacer une partie des trucs. Vu que nous, on n'a pas été poursuivis derrière. Ça a été classé sans suite. Ça n'existe pas. Enfin, normalement, en tout cas, le proc est obligé de considérer la demande.
Moi, c'était un truc technique, parce que moi, du coup, j'ai eu une réquisition, un ordre du proc. Alors, moi, j'ai refusé au début. Il m'a dit, t'as conscience que c'est un délit en plus ? Genre, rien à déclarer. Et du coup, emmené pour mettre les empreintes. Et alors, enfin, ouais, au début, genre, je voulais pas sortir de ma cellule. Il y a un condé qui arrive en mode coup de pression qui a fait hey, si tu vas sortir. Donc, je fais vas-y. Il vient, de toute façon, je me suis dit, je m'en fous. Je vais rien à faire. J'étais comme ça, ils m'ont fait lire le truc. Et en fait, là, parce qu'au début, je pensais que c'était du bluff. Moi, j'avais jamais entendu parler du truc de l'ordre du proc. En gros, il y a un truc qu'ils font, c'est ils demandent au proc, et le proc fournit une réquisition. En gros, qui autorise les condés à prendre tes empreintes par la force, si tu refuses. Parce que du coup, il y a la coercition par le fait d'évoquer que c'est un délit de ne pas donner ses empreintes. Et quand ça marche pas, et qu'ils veulent vraiment des empreintes, bah ils demandent. Enfin, ils tentent ce truc-là. À mon sens, il faut toujours quand même tenter de. Enfin, ça, c'est avoir. Ils en choisissent, hein, parce que tu peux prendre une infraction en plus pour ça. Mais c'est bien de toujours tenter, parce qu'on sait jamais. Par exemple, normalement, tu es censé te prendre une infraction pour le refus de donner tes empreintes, même si tu les as déjà données. Et c'est pas arrivé au poteau, justement. Donc on sait jamais, il y a des trucs. Plus les étapes se multiplient, et plus tu leur fais multiplier les étapes, plus ils font des erreurs. C'est juste statistique, quoi. Et du coup, franchement, genre, moi j'aurais dû un peu plus résister, je pense. Après, je suis arrivé, je lis le truc, et en fait, en lisant le truc, je fais ah ouais, en fait, c'est pas des lol, quoi. Ils se foutent pas de ma gueule, c'est un vrai truc.
Il y avait 5 coffres autour de toi.
Ouais, voilà. Genre, ça mettait la presse.
Moi, pour ma part, à partir de ma première audition, j'ai plus vu personne. Du coup, on m'a rien ramené, pas de nouvelles notifications de droit, pas de notification de prolongation de garde à vue, il n'y a rien eu. Et vu que j'étais dans la cellule en face des gardiens, ben, j'ai pu voir le moment où ces enfoirés ils ont décidé de nous envoyer en déferment. Du coup, ils étaient tout contents. On en a 3 là qui partent en déferment. Après, j'ai entendu l'élan, je dis ah putain. J'ai entendu l'élan et du coup, ouais, c'est quand même passé une heure entre ce moment-là et le moment où on a été déféré. Moi, je pars avec la troisième personne, là, qui n'est pas là, et lui, il part tout seul.
Ils m'ont pas vu du tout, du coup.
Non, on s'est pas croisé au tribunal. Juste à la fin.
Ouais.
Nous, on est parti en voiture, dans la même voiture. Du coup, on a pu causer, on peut mettre en place une stratégie pour là-bas. Et des fois, ils nous disaient de la fermer, mais on a quand même dit tout ce qu'on avait à dire.
Bah ouais, moi de mon côté, la fin de la garde à vue, c'était happy end. Ils sont venus me chercher, ils m'ont filé mes affaires. Et en 30 secondes, j'étais au soleil avec mes lacets dans la main, mon petit sachet plastique et mes clés et les autres trucs que j'avais sur moi, et c'était cool. 5 minutes après, il y avait les collègues qui sortaient. Voilà. Après, je suis rentré chez moi. C'était bien.
T'as pris une bonne douche.
Ouais, j'ai pris une douche, j'ai bu des coups, hein.
Ah oui, direct. De toute façon, il y a un truc, je trouve, c'est que genre, tu sais, quand tu sais qu'il y a des gens qui t'attendent et qui font des trucs en dehors de ta garde-œuvre pour t'aider, ça, c'est un vrai truc. Genre, je pense que c'est très très important. Les gens, ils... nous, on était quand même, on avait quand même un truc de. En fait, si on va au tribunal, ça va le faire. Et effectivement, ils ont assuré.
Alors, difficulté avec eux, parce que moi j'étais à l'extérieur ce coup-ci. c'est que c'était le week-end. Et en fait, ça, c'est un gros truc. Ils se sont fait choper un jeudi soir. Et s'ils se faisaient pas, s'ils passaient pas en comparution immédiate le vendredi, on savait pas trop ce qui se passait. Ils allaient peut-être se faire déférer. Ou le week-end au Beaumet, c'était en gros la grosse crainte qu'on avait. On a un peu dépêché une team pour aller voir tout le temps, tous les jours au trib. Quand est-ce qu'il allait arriver. Et le week-end, en fait, c'est hyper chaud de choper l'avocat. Parce que le jeu, en effet, comme tu as dit, c'est de choper les garanties de représentation. Ça va, on était préparé. Donc, garantie de représentation, quelque chose sur l'identité, carte d'identité, quelque chose sur l'habitat, n'importe quoi, même une attestation d'hébergement, ça passe. Et un taf, même si c'est un faux taf. Tant pis.
Un taf ou un justificatif d'activité, du genre...
RSA, chômage, c'est pas mal.
Certificat ouais. Étudiant.
Ouais, ça, c'était pas un souci pour nous, parce qu'on était prêts à ça. Mais par contre, la semaine, tu peux directement aller voir le greffe et aller lui donner les docs.
Ou même attendre devant la salle d'audience et lâcher direct ça au commis d'office. Mais le week-end...
Le trib, il est fermé. En fait. Oui. Du coup, on a dû camper devant l'entrée de derrière du tribunal.
C'est celle qui est à droite, en face de l'entrée principale. Elle est sur le côté droit. Bon, du coup, c'est pas le tribunal avec les colonnes, c'est le petit tribunal avec les croix gammées sur le mur. Et du coup, il y a l'entrée des véhicules et des véhicules pénitentiaires sur la gauche. Il y a l'entrée principale avec les escaliers. Et il y a une entrée de service qui est empruntée par les avocats le week-end.
Par les avocats et toute la magistrature.
Oui, toute la magistrature.
Et du coup, tu campes devant et tu vas faire chier tous les magistrats qui rentrent. 100% pour dire, vous n'avez pas entendu parler de ces gens-là. On a une garantie de représentation. Si vous croisez leur avocat, on veut le voir. Et on a fait chier. Bon, on a dû croiser la juge, hein, on a dû croiser tout le monde. Voilà, et ça a marché. Tout sauf d'une ronde. Belzin,
Rick Dan. Bah, putain, vous avez coupé la vie.
Eh ben, on est toujours sur La Courte Échelle. On vient d'écouter... La Courte Échelle, c'est une émission contre les prisons. Et on vient d'écouter un enregistrement qui parlait de garde à vue. Moi, j'étais chaud de parler un peu de conseils de la Legal Team, sauf si vous avez envie de dire un truc avant. Non,
non, vas-y.
OK. Les conseils de la Legal Team, ça dit que, comme disaient les potes là, dans l'enregistrement... qu'on a le droit de rien déclarer, qu'en fait c'est cool et ça aide de garder le silence et qu'on a le droit de pas signer les procès-verbaux. Comme il disait aussi dans l'enregistrement, c'est possible de dire que son petit état civil, genre juste son prénom, son nom, sa date et lieu de naissance, il n'y a pas besoin de donner son adresse portale, genre postale.
C'est ce que j'ai fait dans mon affaire. Moi,
ouais,
j'ai gardé
toi, tu
le...
savais ça.
Moi, j'ai gardé le droit du silence, c'est carrément. Ça veut dire que je n'ai même pas donné le nom parce qu'ils ne sont pas idiots, ils savent chez qui ils vont quand même. Sinon, ça serait pas possible. Quoi. Mais moi, j'ai gardé le droit du silence et on m'a laissé un jour.
Un jour, ouais, tu as eu 24 heures.
48 heures.
48 heures.
48 heures pleines parce que quand j'ai gardé le droit du silence, ça les a embêtés un tout petit peu et après ils ont fait du copier-coller. Donc j'aurais pas pu prendre tout le monde en même temps parce qu'il y avait du monde à mon domicile. Moi, je suis huissier, bac, police nationale et gendarmerie en force.
Voilà. C'est vrai que ça fait du monde.
Ça commence à faire du monde dans la rue. Donc, c'est voilà, clair. Quoi. Mais bon, moi, ils savent comment je suis aussi, donc... effectivement. Grave. Mais vaut mieux garder le droit du silence.
Ouais, ouais, ouais.
Moi, comme j'ai toujours conseillé, vaut mieux d'entrée de jeu enregistrer, filmer les arrestations. Parce que c'est là où il y a les abus. Et quand on filme une arrestation, ça les gêne beaucoup parce qu'après, sur l'audition, ils savent qu'il y a des vidéos.
Bah ouais, c'est des preuves, c'est clair.
Et des vidéos amateurs, ça gêne plus que leurs vidéos parce qu'elles ne sont pas claires. Parce que même Virissure dit que les caméras, les vidéos de la ville sont troubles la plupart. Donc, il vaut mieux garder le droit du silence. Et je le confirme assez fort.
Grave. Il y a d'autres droits que la Legal Team dit aussi, c'est que c'est possible de désigner un ou une avocate, de voir un ou une médecin, de prévenir un ou une proche, genre retenir par cœur le numéro de vos personnes de confiance, de vos soins ultimes, c'est pas mal. Et c'est possible aussi de refuser la prise de photos, d'empreintes et d'ADN. En fait, il y a genre pour le refus de fichage, c'est un délit passible de prison, mais souvent en pratique, c'est un risque d'amende. Et ça, c'est quelque chose qui peut être pris en charge collectivement. Plutôt ce que la Legal Team dit, c'est que c'est chiant, en fait, parce que le fichage, au contraire, c'est à vie, quoi. Et que les keufs, ils essayent de prendre l'ADN par la ruse aussi, genre avec les clopes, hein, si tu bois dans un truc. Je termine les conseils, ça... ils disent qu'en fait c'est important de se dire que savoir que c'est toujours toi qui as le dernier mot sur ta stratégie et pas l'avocat ou l'avocate, et ils proposent que si jamais t'es déféré, c'est-à-dire que t'es emmené au tribunal et que tu dois pour aller devant là où la proc ou le proc, si t'as un commis d'office, tu peux lui demander de contacter la Legal Team qui peut du coup te mettre en lien et te permettre d'être défendu par un avocat qui est en lien avec eux, qui est pris en charge et qui a peut-être de la déterre pour te défendre, quoi. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Je voulais aussi parler de SPAM. Je ne sais pas si vous voyez, c'est un collectif de soins et de soutien, particulièrement dans les trucs de répression. Ils proposent du soin et aussi de l'autodéfense. C'est à Marseille. Ils proposent des espaces de formation comme des espaces de soutien psycho-émotionnel. On peut les contacter sur Signal et aussi au 07 45 97 56 99. Voilà, ça c'est le truc que j'avais envie de dire.
Tu peux redire le numéro ?
Ouais, grave. Le numéro c'est 07 45 97 56 99 pour le spam. Ouais.
Peut-être rajouter, redire un peu aussi ces histoires de garantie de représentation. De dire pour les gens qui sont à l'extérieur, pour des périodes qui sont un peu tendues, d'avoir un peu ça prêt, effectivement, chez des personnes de confiance, des trucs qui puissent justifier d'une activité, d'un travail, d'une activité auprès d'associations, des trucs y a des gens qui aiment bien mettre, par exemple, des gens qui ont des enfants, de dire qu'ils sont des enfants à charge ou des personnes à charge. Voilà, c'est un peu des trucs qui vont jouer une fois qu'on est déféré, qu'on passe devant le juge, pour des trucs qui vont un peu décider de est-ce qu'on va en préventive ou est-ce que le juge dit en fait il y a quand même des choses à faire dehors et cette personne se représentera quand on l'appellera pour un procès.
Grave.
L'objectif général étant de montrer au maximum, montrer patte blanche, montrer que t'es inséré, le plus possible, que t'es quelqu'un qui est dans la norme, qu'il y a du fric si possible, parce que la justice étant la justice de classe. Il faut montrer que t'es un bourgeois, si possible.
C'est ça.
Mais dans les trucs qu'on peut faire dehors, c'est genre des rassemblements. Moi, ça m'a fait trop du chouette d'entendre que, genre, Chickenville, ça se voit de l'intérieur et qu'on peut mettre des banderoles. Que, cet espace-là devant le McDo, ça fait du soutien et on peut être vu, c'est cool.
Mais le soutien, c'est déjà important. Hein. Dès la garde à vue et dans les maisons d'arrêt, partout. Ouais. Dès qu'il y a du soutien, dès qu'il y a du courrier, c'est le petit bonheur, le petit plus. Hein.
Ouais, c'est clair.
Donc, c'est le plus important, hein, avec le courrier et les parloirs. Voilà, quoi. Les parloirs, c'est important. Et quand ils arrivent sur une minute de retard, donc ça veut dire qu'il peut avoir un problème de route ou quelque chose. Imaginez-vous que la surveillante va dire à la détenue « parleur fantôme ». T'as pas d'autres mots à dire. Et après, quand ils appellent la famille, effectivement, ils s'aperçoivent qu'ils sont devant la maison d'arrêt et que, en fait, c'est une histoire de une minute. Et ils sont même pas encore en geôle. Donc ça, je trouve ça aussi lamentable parce que les gens qui ont les parloirs, souvent, il y en a beaucoup qui arrivent de très loin, pour 45 minutes. Donc ça veut dire 45 minutes. Ils vont faire le trajet pendant 2-3 heures pour être peut-être refusés parce qu'ils ont eu une petite couille un accident ou un barrage routier, contrôle d'alcoolémie ou machin qui nous font perdre du temps pour des conneries. Eux, ils ne vont pas vous dire non, le parloir, on s'en fout. Tu restes là, on te contrôle. Donc ça, ils n'en tiennent pas compte. Et c'est inhumain quand il y a des enfants en bagage. Parce que les familles, quand ils viennent avec leurs enfants. Il y a des mères de famille qui voient leurs enfants au parloir. Imaginez-vous qu'un gamin de 6-7 ans qui va voir sa maman, qui est très content de voir papa, maman ou peu importe, qui a cette joie, et qu'il y a un surveillant pénitentiaire qui te dit « Non, t'es en retard !» Ouais. C'est humain, ça ?
Non.
Voilà, quoi, c'est surtout pour une minute souvent. Parce que en général, les familles, elles s'organisent, elles arrivent et ils ne sont pas à l'abri d'un pépin sur la route. Quoi. Et ça, ils ne veulent pas l'entendre. C'est comme la prise de téléphone qu'ils ne veulent pas entendre pour brancher mon téléphone, pour mon GPS à Marseille, que je ne connais pas Marseille. Ouais. Parce que la logique, ils ne connaissent pas.
On le répétera à toutes les émissions
jusqu'au bout.
On va pas les lâcher.
Ah, on les lâchera pas. Et surtout, il faut amener les témoignages. Parce qu'on a entendu du bruit apparemment sur les baumettes qu'il s'est passé quelque chose hier. On n'a pas plus d'infos, mais on attend des infos. Donc, on va se renseigner, on va savoir. Et on vous demande de donner ces informations, qu'est-ce qui s'est passé. Que ce soit anonyme, hein, vous pouvez rester anonyme autant que déclarer votre nom. Ou, voilà, quoi. Donc, comme beaucoup de filles, il y a beaucoup de sûrement à dire. Et je suis toujours dans les bâtiments, donc vous pouvez faire les courriers intérieurs aussi. Hein. Et en même temps, moi, je veux transmettre à Radio Galère, parce que, comme j'ai dit, je resterai avec Radio Galère avant, pendant et après.
Ouais. On a pris de la chance.
Et on sera devant les baumettes aussi le 9 novembre à 15h30. Une manif qui s'organise devant les baumettes. Donc j'espère que vous allez venir nombreux, nombreuses. Et toute l'équipe de Radio Galère sera présente également. Et moi aussi parce que j'ai mon autorisation de sortie. Donc je vais avoir le droit de manifester.
Trop bien. On arrive à la fin de l'émission. Est-ce que vous voulez rajouter des trucs ?
Un truc juste, une info par rapport à Radio Galère justement. Apparemment, la table de mixage de Radio Galère est en fin de vie. Elle est vraiment en galère. Et donc, il y a trois possibilités pour faire des dons à la radio pour remplacer cette table de mixage qui permet toutes les émissions et toute la musique et tout, voilà.
Et la courte échelle.
Et la courte échelle. Oui, grave. Du coup, donc, sur Allo Asso, il y a une quête de dons, une cagnotte, qui s'appelle Remettre à flot Radio Galère. Voilà. Sur le site de Radio Galère, il y a un lien, j'imagine, vers l'appel à dons. Et ou alors en cash ou en chèque aux salariés de Radio Galère. Voilà. Et toute participation est super.
Que là, on vient de se faire. On a perdu un tiers de nos subventions avec la récente. Donc, on veut la moula. Je sais pas s'il y a des personnes qui sont pas à l'intérieur et pas trop en galère de thunes qui nous écoutent. Je sais pas si la courte échelle, on est la meilleure pour recruter des thunes, mais on tente, on sait jamais.
Baby mécénat.
Et c'est bien de le dire. Ouais. Ouais.
On va terminer sur un son.
Bon, on va finir sur le son de la Liberta en espérant qu'il y ait beaucoup de monde et qu'il écoute.
On va mettre deux sons.
Ah, ouais. Deux sons. Ah, on va mettre deux sons. Voilà, pas de jaloux. Comme ça, si on peut avoir beaucoup de liberté, de libérable d'ici la fin de l'année. Bon, comme on dit, il ne faut pas croire au Père Noël, mais essayer d'y croire au moins. Peut-être qu'ils seront gentils et qu'ils nous laissera des permissions de sortie.
Se battre pour autre.
Voilà quoi.
Gros big up à tous et toutes. Ouais. À la semaine prochaine.
Plein de force à vous.
Petit big up ouais.
Du coup, il y a un coup de la Libertad. Et, l'autre truc, c'est la chasse au loup de Vysotsky pour Tekovic et les gens qui sont chez lui.
Exactement.
Petit big up aux supporters enfermés en ce jour de Classico.
Ah bon, Classico.
Pense à vous aussi. Et on vous dit à la semaine prochaine.
Bisous. Et à la semaine prochaine. Et moi, je vous dis à samedi. Ciao, ciao.
S'achète. Liberté, c'est tout ce qui nous reste. Si le scénario se répète, on sera acteur de la paix. S'il faut, vos discours sont si faux. Ouais, s'il faut, qu'on a fini par s'y faire. Mais c'est fini. Rends-moi ma liberté, je te le demande gentiment. La liberté, la liberté, la liberté, c'est d'abord dans nos cœurs. La liberté, la liberté, la liberté, nous ça nous fait pas peur. La liberté, la liberté.
Ils ont dit bon débarras. Ils ont cru qu'on avait peur de se passer tout noir.
Il n'y a plus personne que des photos, des mensonges, que des pensées qui nous rangent. C'est bon, emmenez-moi là-bas. Oui, il n'y a plus personne là-bas. Il n'y a que le peuple. Che Guevara, ma taupe. Emmenez-moi là-bas. J'écris ça un soir.
все сил и из всех сухожилий. Но сегодня опять как вчера обложили меня, обложили, гонят весело на номера. И заели хлопочут двустволки, там охотники прячутся в тень. На снегу кувыркаются волки, превратившись в живую мишень. Идет охота на волков, идет охота на серых хищников, матерых и щенков. Кричат загонщики и лают псы до рвоты, кровь на снегу и пятна красные флажков. Не на равных играют с волками егеря, но не дрогнет рука, оградив нам свободу флажками. Бьют уверенно наверняка. Волк не может нарушить традиции. Видно, в детстве слепые щенки. Мы, волчата, сосали волчицу, и всосали нельзя за флажки. И вот охота на волков, идет охота на серых хищников, матерых и щенков. Кричат загонщики и лают псы до рвоты, кровь на снегу и пятна красные флажков. Наши ноги и челюсти быстры, почему же вошак, дай ответ. Мы затравленно мчимся на выстрел и не пробуем через запрет. Волк не может, не должен, иначе вот кончается время мое. Тот, которому я предназначен, улыбнулся и поднял ружье. Идет охота на волков, идет охота на серых хищников, матерых и щенков. Кричат загонщики и лают псы до рвоты, кровь на снегу и пятна красные флажков. Я из повиновения вышел за флажки, жажда жизни сильней. Только сзади я радостно слышал удивленные крики людей. Рвусь из сил, из всех сухожилий, но сегодня не так, как вчера. Обложили меня, обложили, но остались ни с чем егеря. Идет охота на волков, идет охота на серых хищников, матерых и щенков. Кричат загонщики и лают псы до рвоты, кровь на снегу и пятна красные флажков.
Toujours sur la courte échelle, on vous passe un dernier son, Bells on Breakdown.
Час зачатия я помню не точно, значит, память моя однобока, но зачат... Balzans Breakdown.
Belzunce, fleuron des quartiers phocéens. Coincé entre la gare et le vieux port, on n'est pas les plus à plaindre. À domicile comme à l'extérieur, on sévit sur les cafards comme le bégon.
D'où sort d'une ronde, Belzunce Breakdown.
Chacun s'occupe comme il peut, à représenter le quartier, ouais, le quartier. Certains font des t-shirts et d'autres sont champions ou chanteurs reconnus. Tout ça sort de la rue, Hein, qui l'eût cru, pas eux en tout cas.
Nous sortons d'une ronde,
Belzins Rickden. De mon front, pas de rêve, gars, une trêve d'or très peu. Les factions sont sur le qui-vive, on n'est pas à l'abri d'un sale coup. Beaucoup sont déçus, et ça cause des plaies à l'âme que l'on ne peut oublier. Impossible aussi d'oublier ceux qui sont tombés, bons ou mauvais, on en garde un souvenir impérissable. Si un jour je deviens vieux, ce dont je doute avec la vie que je mène, j'écrirai un book sur ce quartier. Belzins! Nous sortons d'une ronde, Belzins Rickden. 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 Belzins Rickden.